Coq à l'âne.
Ok, 3, 2, 1, let's jam.
Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour. Bienvenue dans ce numéro 714 du Coq à l'âne avec les coqualiens autour de la table. Michel Roussel, bonjour Michel.
Bonjour.
Nous avons Jean-Claude Hérault.
Bonjour.
Salut Jean-Claude. Et nous avons Jean Cointe.
Bonjour.
Salut Jean Cointe. Et notre invité, le directeur de la dette. Alors, je vais rectifier, hein, car de nos jours, être directeur de la dette, ça peut prêter à confusion. Yvan Chaix rend l'argent. Yvan Chaix, directeur de l'agence départementale du développement économique et touristique des Hautes-Alpes. Alors, appelez-la l'agence, hein.
Oui, l'agence, c'est très bien.
C'est
oui.
Comme ça, l'agence pour les intimes, on se croirait presque, mais presque, dans Mission Impossible. Bonjour Monsieur Chaix, navré d'interrompre vos vacances. Votre mission, si vous l'acceptez, relancer la fréquentation touristique dans les Hautes-Alpes après 2 ans de Covid. Et histoire de tester votre niveau de performance, une grève SNCF vous sera mise dans les pattes pour les vacances de février. Vous devrez également préparer le salon de l'agriculture pour le département et accessoirement construire une piste de bobsleigh et un tremplin pour le saut à ski en prévision des JO 2034. Si vous pouviez également prévoir une gare TGV à Fraissinière et une bretelle autoroutière à la Bâtie-Neuve, nous vous en serions reconnaissants. Le nom de code de votre mission olympique, JMP 2034. Évidemment, si vous échouez, le département n'ira avoir eu connaissance de vos agissements et cette bande s'auto-détruira dans 5 secondes. Alors, la question, c'est Yvan.
C'est comment entrer en matière.
La question, la voici, la première. Est-ce que tu acceptes la mission?
Mais oui, forcément. En tout cas, au moins la première partie.
C'est laquelle, la première?
Peut-être plus complexe, mais la première partie, bien évidemment, oui.
Alors, le tourisme, oui. La relance du tourisme dans les Hautes-Alpes après 2 années compliquées?
Alors, on a vécu 2 années incroyables, hein, 2020-2021, avec la crise sanitaire et économique, était tout à fait inédite, mais... Notre activité économique et touristique, en vérité, a eu le profil de montagne russe. On a eu des moments difficiles, on a eu aussi des moments exceptionnels. À la faveur de la crise sanitaire et économique, jamais nous n'avions accueilli autant de visiteurs l'été. Saison d'été 2020, année record, saison d'été 2021 confirmée, alors que dans le même temps, on a connu un hiver dernier catastrophique avec un effondrement de la fréquentation, au moins 60% d'activité. Donc c'est une situation tout à fait... particulière. Alors, bien évidemment, il y a eu des moments très difficiles. Je ne sous-estime pas ni la difficulté des entreprises, ni la détresse de certains Hautalpins. Mais la vérité, c'est que même si on est peut-être parmi les territoires de France qui ont été les plus frappés par la crise économique, en raison de la nature de notre activité, hein, fermeture administrative des remontées mécaniques, une activité très tournée vers l'hôtellerie et la restauration, qui eux aussi ont subi des restrictions très importantes, on sort... on va dire tête haute de ce moment difficile. Peut-être juste insister sur ce point-là, parce que je ne suis pas certain qu'on l'ait suffisamment fait. Quand on regarde les aides qui ont été allouées aux entreprises de ce département des Hautes-Alpes, le prêt garanti, les fonds de solidarité...
Le quoi qu'il en coûte.
Oui, l'activité partielle, les exonérations de charges fiscales et sociales, c'est dans ce département qu'elles ont été le plus mobilisées. Alors au prorata de nos entreprises, bien évidemment, mais c'est dans ce département qu'elles ont été le plus mobilisées. Quand on regarde la situation de l'emploi, aujourd'hui on est revenu à un taux qui était celui d'avant-crise, plus de 7% de demandeurs d'emploi. Au premier trimestre 2021, notre taux a bondi à 16,3%. Plus forte hausse de France avec le département de Savoie. Donc on a connu des moments difficiles, mais nos entreprises ont tenu bon, grâce à l'État, hein, et puis également... à la capacité des Hualpins de se mobiliser et de faire face, les entrepreneurs en particulier.
Alors on a des bonnes tendances, visiblement, hein, pour les chiffres des vacances qui débutent là, hein, qui vont débuter. Bonnes tendances?
Ah oui, c'est une saison tout à fait incroyable, parce qu'on a vécu un hiver sinistré l'année dernière, et parce qu'on avait besoin de réussir cette saison. On a plutôt bien démarré, et quand on regarde les chiffres d'activité puis les perspectives sur les 4 semaines de février, quand on met ça en ballant avec la crise sanitaire, avec l'épaisseur du manteau neigeux, on s'en sort plutôt pas mal. Là, on rentre sur une période qui est cruciale pour nous. En 4 semaines se joue plus de 40% de la saison d'hiver.
Mais la question, c'est que tu parles de manque de neige, hein, c'est une évidence.
Comment ça va se passer? Parce que les gens ont réservé, j'ai vu que le taux de réservation était plus de 70%.
C'est très bon.
C'est très bon.
C'est très bon.
Presque 3% de plus que l'année 2019, l'année référence, si j'ai bien regardé. Mais moi, ce qui m'inquiète, là, en début des 4 semaines, vu le niveau d'enneigement et vu la météo qu'on nous annonce, il va falloir occuper les touristes qui vont être là en masse. Comment les occuper? J'imagine que tous les acteurs du tourisme, les offices de tourisme, tout ça, sont devant une situation inédite. Enfin, moi, je serais acteur du tourisme, je m'inquiéterais. Comment on va les occuper
s'il n'y a pas assez de neige?
On voit bien le niveau de neige. Enfin, on est dans...
Oui.
Je te le faisais remarquer en arrivant ce matin.
C'est sûr, moi, que quand on regarde les montagnes autour de nous...
J'ai jamais vu ça, quoi. On parlait du Kera tout à l'heure, il y a un niveau d'enneigement inédit, quoi. Et la question, c'est comment les occuper? Est-ce que, tu le sais peut-être, mais est-ce qu'il y a eu des actions déjà de prévues pour occuper ces gens-là, peut-être à faire de la rando, faire d'autres activités que la neige, quoi?
Ah, de toute façon, je pense, et je te laisse la parole, je pense que vu ce qu'on a vécu pendant ces périodes compliquées, on ne pouvait pas faire de ski, les stations ont anticipé donc à l'époque pour essayer de trouver d'autres activités, et ces activités, elles existent encore aujourd'hui.
Alors oui, mais je vous dis à l'un à l'autre que les gens feront du ski.
Aussi.
Enfin, c'est ça qu'il faut peut-être retenir, parce qu'on connaît un hiver sec comme on a peu connu ces 20 ou 30 dernières années. Et que si on avait connu la même situation il y a 20 ou 30 ans, bon,
on s'en serait pas sorti.
Serait peut-être d'ores et déjà fermé.
Tu parles de la neige artificielle.
Et la vérité, c'est que l'épisode de neige de fin d'année, les grandes périodes de froid, ont permis à toutes les stations des Hautes-Alpes d'offrir une offre assez intéressante. Alors qu'il s'est dégradé avec le coup de vent de ces derniers jours. Mais malgré tout, moi je suis assez confiant sur la capacité de nos exploitants de remontées mécaniques de proposer le meilleur et d'offrir du ski à ceux qui sont venus faire du ski. Et puis effectivement, à tous les autres acteurs de la montagne de s'organiser pour que le séjour des nombreux vacanciers qui seront dans les Hautes-Alpes pendant les 4 prochaines semaines, c'est près d'un million de nuitées qui sont attendues sur la période, seront satisfaits.
Tu n'as pas rebondi sur le vecteur important qui risque de nous embêter un peu, c'est la grève SNCF.
Ouais, alors ça,
ben oui.
Je suis bien embêté parce que je ne comprends pas.
On est tous autour de cette table, je pense.
Je ne comprends pas.
Alors moi, comprendre.
Sur le ferroviaire, j'ai la foi des nouveaux convertis. Je n'y croyais pas, comme beaucoup de Français qui considéraient que c'était un mode de transport peut-être un peu dépassé, ringard. Aujourd'hui, c'est d'une grande modernité. Et on s'aperçoit que ça répond à un nombre important de problématiques, de mobilité, de déplacement doux, et que les Français et les Européens y sont de plus en plus attachés. Et que j'avais le sentiment qu'on était reparti sur de bons rails pour le coup, avec des prises de position très fortes du gouvernement, des pouvoirs publics, une volonté d'aller plus vite sur l'investissement, sur les lignes du quotidien et puis sur le train de nuit. Et puis là, patatras, une grève pendant les vacances d'hiver, je trouve ça assez malheureux. Et même si on peut entendre les difficultés de quelques salariés, toujours embêté par ce combat.
Moi, je ne veux pas apparaître comme l'empêcheur tonaron, mais j'ai bien vu qu'il y avait eu des élus qui s'étaient manifestés, je me demande même si tu n'y étais pas, mais je ne crois pas, dans le haut du département pour éviter la fermeture, le fait que les gares étaient fermées alors même qu'il y avait les trains qui circulaient. Donc moi j'ai soutenu ce mouvement à l'époque, et aujourd'hui on en remet une couche, c'est-à-dire non seulement on n'ouvre pas les gares quand il faut les ouvrir et accueillir les passagers du train dans des conditions acceptables, surtout quand il fait froid et qu'il y a des intempéries, on en rajoute une couche, on ferme les guichets, on annonce la fermeture des guichets. Je pense qu'à un moment, il faut être cohérent. Après que la grève arrive un très mauvais moment, moi, ce que je souhaite, c'est qu'il y ait des négociations. Voilà, je pense qu'il y aura des négociations. Je pense que la grève n'aura pas lieu, pour vous dire.
J'espère que tu seras entendu. Après, s'il suffisait que les syndicalistes posent des piquets de grève pour éviter la fermeture de gare, on n'en serait pas là.
Donc, oui, justement, il ne faut pas qu'il y ait que les syndicalistes qui se manifestent.
Je pense que c'est un mauvais combat. Encore une fois, à un moment où tout le monde a pris conscience de l'importance du ferroviaire.
Oui, mais on continue la politique.
Et plus particulièrement.
Ce qui est incohérent, c'est qu'au même moment, je suis d'accord avec toi, il y a une prise de conscience avec le train de nuit qui est modernisé, avec les travaux qui ont été faits, des investissements très importants. Et au même moment, on continue à limiter l'accès des passagers. On complique l'accès des passagers au train. Il y a une incompréhension, il y a un paradoxe. C'est ça que je ne comprends pas.
L'histoire des guichets, de toute façon, avec la dématérialisation que l'on connaît de toute manière, moi, ça fait, je sais pas, mais ça fait des années que je n'ai pas acheté un billet à un guichet de gare.
J'ai vu ça sur Facebook.
Mais il y en a de plus en plus.
Ouais, c'est très pratique, effectivement, même sur le portable et tout, tu as ton billet.
Enfin, je sais pas.
C'est pratique.
Ouais. Et tu trouves que c'est normal qu'on ferme les gares ? Alors qu'il y a encore des passagers qui transitent.
Alors, il y a une différence entre fermer les gares et fermer les guichets.
Oui, mais il y a les deux. Le problème, c'est que là, s'il n'y a plus de guichets, on va fermer les gares. Il n'y a plus de lieu de laisser les gares ouvertes. Et on va laisser les gens attendre sous la pluie et la neige leur train sur le quai. Il y a quand même un problème d'accueil.
On ne va pas débattre sur la SNCF. Ce que j'espère,
Qu'il y aura des négociations.
Tout ce que j'espère, c'est que d'ici quelques semaines, ce soit plus en grève, de manière à ce que vous puissiez monter à Paris le département et la dette pour le salon de l'agriculture. Parce que là, on peut rebondir sur le salon de l'agriculture.
Peut-être juste rajouter sur ce point particulier que le nombre de visiteurs qui viennent dans les Hautes-Alpes en toute saison, l'hiver comme l'été, et qui viennent en train,
5%.
Ça reste très peu.
C'est 5%.
C'est 5% des clients.
Donc c'est...
Et qu'il y a un effort de toute évidence à faire pour améliorer le service, inciter ses clientèles à prendre ce mode de transport. Voilà, je pense que c'est sur ces sujets-là qu'il faut se mobiliser. Alors, j'espère effectivement qu'il n'y aura pas de piquet de grève pour aller à Paris pour le centre d'agriculture, parce qu'on est nombreux, c'est une centaine de Alpins qui seront avec nous, sur le centre d'agriculture. Et c'est une belle opération, mais tu la connais parce que tu as eu la chance de nous accompagner, ou en tout cas de la relayer à plusieurs...
Tout à fait, et on la relayera une nouvelle fois cette année.
On est très contents d'y aller parce que c'est un moment de retrouvailles et un beau moment pour promouvoir toutes les richesses de ce terroir, tout le savoir-faire de nos producteurs. Voilà, donc
c'est une belle vitrine.
C'est magnifique. Moi, je suis à chaque fois enthousiasmé parce que... Il y a un bon état d'esprit. Donc une centaine de hauts alpins seront à nos côtés à Paris pendant une dizaine de jours.
Voilà, ça démarre à la fin du mois de février. Hein.
Exactement. Oui.
Et ça va durer pendant une semaine complète.
750 000 visiteurs en année normale.
Oui. Il y en aura peut-être un peu moins avec le Covid. Enfin Quoique, comme l'année dernière, il n'y avait pas eu, ça va peut-être inciter les gens à dire « Ah, on retourne au salon d'agriculture ».
Ouais, j'espère que d'ici là, la situation se sera normalisée.
Oui, ça sera.
Les gens seront nombreux et pourront déguster.
Moi, ce qui m'étonne actuellement
sur notre département,
ce qui m'étonne sur la crise de la Covid, excusez-moi, parce qu'on est aussi pour être un peu pour remuer un peu le truc, c'est que la politique a décidé que la crise était derrière nous. Manifestement, le gouvernement a dit il y a les élections, donc la crise est terminée. Moi, j'écoutais des spécialistes hier soir. Qui étaient tous unanimes pour dire la crise n'est pas terminée. Il y a des risques de nouveaux variants qui arrivent. Il y a les élections dans 60 jours présidentielles. Il faut que la crise faut s'arrêter, quoi. Il faut que la crise s'arrête, quoi. Mais c'est pas la politique qui va décider si la crise sanitaire s'arrête ou pas. Malheureusement, c'est le variant.
On verra si tu as raison.
Moi, j'espère avoir tort.
On verra si tu as raison ou tort dans quelques semaines, si effectivement ça s'accélère ou ça se calme. Là, visiblement, au niveau des hôpitaux, ça se serait un peu calmé. Donc, on peut croiser les doigts, espérer que ça s'arrange. D'ici 2034, peut-être que le train n'existera plus. Alors tout à l'heure, je plaisantais en disant de créer une bretelle d'autoroute, de créer des pistes de bobsleigh et un tremplin éventuellement. C'est une réalité pour toi dans ta tête, là, aujourd'hui, les JO 2034 dans les Alpes du Sud et plus particulièrement chez nous ?
Alors, l'échéance peut paraître très lointaine. Moi, j'y crois. Alors, je vais essayer de le dire de façon la plus simple possible. Alors, d'abord, je crois à l'esprit olympique. Moi, j'ai des souvenirs très forts d'Olympiades d'été et d'hiver.
Quand tu étais jeune.
Et je pense que ce sont des beaux moments, même s'il ne faut pas être dupe sur les dérives du CIO, l'olympisme. Mmh. Je pense qu'il n'y a pas de plus beau moment de partage et d'émotion que les rencontres sportives et la performance. Mmh. Et que quand l'on a dit ça et que l'on aspire à ce que les Jeux d'hiver perdurent, et d'été perdurent aussi, tôt ou tard, il faudra qu'ils se tiennent dans les Alpes du Sud.
Un jour ou l'autre.
La France est une grande destination d'hiver et de pratique de sport d'hiver. Les Savoies l'ont eu avec Albertville, la Haute-Savoie l'a eu avec Chamonix, l'Isère l'a eu avec Grenoble. Le moment des Alpes du Sud est venu. Et ce qui pouvait paraître tout à fait improbable il y a quelques années, et qui l'a peut-être été quand il y a eu une candidature de Pellevoux, les beaucoup moins aujourd'hui, parce que la règle du jeu a changé. Mmh. Parce que ce qui est proposé aujourd'hui était impensable il y a quelques années, parce qu'une ville et un territoire devaient porter une candidature. Mmh. Alors que là, c'est une région et un massif. Mmh. C'est tout à fait différent. Et ce qui était impossible à l'échelle des Alpes, l'est tout à fait à l'échelle
d'une région.
Des Alpes du Sud et de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui est une des plus grandes régions de France.
Mmh. Jeannot, qu'est-ce que tu en penses, toi, parce qu'on t'a pas entendu depuis que tu es arrivé.
Je pense que vous avez tout à fait raison d'évoquer ce sujet qui a été, hélas, on va dire, proposé trop tôt. Et je pense que maintenant, effectivement, ça prend tout son sens. Maintenant, il y a loin de la coupe aux lèvres et je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire pour arriver à crédibiliser une candidature parce que, ne serait-ce qu'au niveau des voies, on va dire, d'accès, c'est toujours pareil, quoi.
C'est le problème, hein.
Alors, c'est pour ça que peut-être que la politique nous favorisera avec l'élection d'une candidate.
Ah, ça y est.
Qui sera d'origine avec une manga française par son père, bien sûr.
Ils n'arrivent pas à mettre en place un comité de soutien. Alors,
non, mais alors fait, attends.
C'est fait. Ah, il est fait, le comité de soutien.
Si Valou est élu, en 2034, ça ne sera peut-être plus là non plus. Hein. T'es au courant. Ouais. Faut pas déconner non plus. Hein. Moi, je veux bien 5 ans, mais faut pas déconner non plus. Je me plaisante.
La remarque est très juste parce que quand on pense aux Jeux Olympiques d'Albertville, alors on se rappelle des médailles.
Non, on se rappelle de Barnier aussi.
Voilà, moi je me rappelle de celle de Picard, on se rappelle de ceux qui l'ont organisé, Barnier et Killy notamment. Il faut surtout dire que ça a métamorphosé la Savoie.
Tout à fait.
Que les vallées de Haute-Maurienne et de Tarentaise ont été désenclavées grâce aux Jeux Olympiques.
Ouais.
Parce qu'aujourd'hui, on dit ils ont un avantage concurrentiel incroyable, le train arrive à Bourg-Saint-Maurice, les voies rapides à deux pas des stations, mais il y a quelques décennies, avant les Jeux Olympiques, c'était plus compliqué d'aller chez eux que chez nous. Donc il faut avoir ça à l'esprit. Alors moi, je le redis, je pense que c'est une chance et qu'il faut la saisir. Alors, bien évidemment, c'est un travail au long cours, et il faut le faire avec beaucoup de sérieux. Il ne faut pas se précipiter non plus. Hein. C'est l'intention de candidature, il faut s'organiser, il faut convaincre les instances des comités olympiques. Moi, j'y crois. Et ceux qui n'y croient pas, je leur dis, si vous ne vous prenez pas à rêver devant des performances sportives à l'occasion des Jeux Olympiques, mais qu'est-ce qui vous reste? Qu'est-ce qui vous reste?
Non, mais il faut rêver, y compris dans une heure, là, enfin. C'est pas dans une heure, puisque...
On enregistre.
On enregistre. Mm-hmm. Mais il va y avoir la cérémonie d'ouverture.
Oui.
Et c'est vrai que, bon, on nous a beaucoup bassiné, la Chine et compagnie, mais ce qui m'intéresse, c'est les épreuves sportives qui arrivent, d'autant qu'on a beaucoup de alpins... et de hautes alpines qui sont en lice. Mmh. Aujourd'hui, sur le Dauphiné libéré, d'ailleurs, ça a été bien fait parce qu'il y a la liste des pratiquants de nos alpins et les jours et les épreuves. Et donc, moi ce que j'ai envie de rêver, comme le dit, c'est ça, c'est le rêve qui est important. Après, moi, la question que je pose, 2034, 2037, je ne sais plus quelle date tu as été.
38.
Moi, je me posais la question, où on en sera de l'enneigement à ce moment-là, quand même. La question, il faut se la poser, quoi.
Normalement, il paraît qu'avant 2050, il ne se passera rien d'exceptionnel.
Oui.
Bah, c'est ce qu'ils disent. Moi, je ne suis pas spécialiste.
C'est interrogatif, quoi, quand même. Quand je vois comment évoluent les choses... Qu'aujourd'hui, franchement, moi je suis un ancien alpin, mais vous aussi, on voit les températures le matin, encore ce matin, il fait moins 1 à Gap, 0, moins 1. Avant, on avait moins 15, moins 20, quoi. Je veux dire, moi, il m'est arrivé c'est pas si vieux que ça, hein. On avait pendant 15 jours,
ben, il y a 20 ans.
Moins 15, moins 18 le matin. C'était ça, quoi. Mmh. Là, on a zéro moins. Alors, je me dis, en 2034-2038, où on en sera en matière de température. Parce que si on a des problèmes de température, on aura des problèmes, y compris d'enneigement artificiel, on aura des problèmes d'eau. Mmh. Parce que moi, je m'inquiète pour cet été, là. Hein. Je pense, Yvan, toi qui fais de la prospective en permanence, tu dois y penser à toi aussi. S'il n'y a pas de neige en altitude comme c'est le cas aujourd'hui, il peut y avoir une période de rattrapage. Mmh. C'est-à-dire qu'en février, mars, il peut y avoir de fortes chutes de neige en altitude qui nous permet de faire de la réserve. Il faut l'espérer. Mais parti comme c'est, si ça continue sous cette sécheresse...
Tu penses au lac de Serre-Ponçon?
Ben, moi, je pense à beaucoup de choses. Mmh. Ça m'inquiète beaucoup. Mmh. M'inquiète beaucoup.
Je ne suis pas inquiet, parce que si vous voulez, je tiens des statistiques purement commerciales, on va dire, ou un engin très spécifique, niche de marché, qui s'appelle fraise à neige. C'est vrai qu'il y a, on constate par exemple qu'en l'an... c'est vieux.
En l'an 1795.
En 2001, je ne me rappelle plus.
Le jeune Napoléon.
Eh bien, on a eu une chute de neige extraordinaire le 17 février, par exemple. Ou alors, il y a plus récemment, donc en 2011, il y a eu une chute de neige sur le Laragnier extraordinaire.
Ouais, c'est vrai.
60 cm. Ouais. Donc c'est clair que c'est quand même encore très aléatoire et que quoi qu'on puisse dire et faire, il y a quand même une part d'aléa.
Mmh. Absolument.
Mmh. Mais alors, on a ces discussions parfois avec Jean-Claude quand on pense le réchauffement climatique. On voit bien qu'il est à l'œuvre. Hein. Notre milieu naturel y est frappé par le réchauffement, nos activités humaines aussi. C'est idiot de le contester. Et tout de suite, on pense aux activités touristiques, aux stations de ski, au lac de Serre-Ponceau. Enfin, la vérité, c'est que si la situation nous échappe, c'est pas là que seront les plus grandes difficultés. Les plus grandes difficultés, elles seront du côté de l'alimentation en eau potable, des populations.
Absolument.
Côté de la production d'énergie, enfin, on oublie qu'en France, l'hydroélectricité compte pour beaucoup dans l'autonomie énergétique. L'alimentation des sites industriels dans la Provence, l'irrigation agricole. C'est étonnant de voir que sur ce sujet, qui est un sujet important, les seules préoccupations vont à l'endroit des stations de ski.
Ce sont des préoccupations très locales.
Non, mais le jour où Orsières-Mayenne sera empêché, ce que je ne crois pas... un des fleurons de nos sites touristiques, hein. Faute de neige, les gars pensaient devront avoir du souci pour leur alimentation en eau potable.
Absolument.
Et c'est étonnant qu'on n'ait pas cette réflexion globale et qu'en fait, on pointe du doigt les destinations touristiques et on leur somme de faire des efforts.
Intervenu tout à l'heure, ce n'est pas pour les destinations touristiques, hein, que j'intervenais. C'était pour la qualité de la vie, c'était pour la qualité de l'air, la qualité de l'eau, tout ça, qui est très inquiétant. Voilà, après moi, peut-être que je me trompe. Je suis pas un spécialiste.
Oui, tu te trompes souvent.
Mais bon, on peut se fermer les yeux, on peut continuer à mettre des potes. On peut faire l'autruche. Je constate, c'est tout.
Non, mais tu as raison.
Pour ce qui concerne l'eau, on est déjà en sursis parce que les champs-souris risquent de couper l'alimentation plus massivement. Ils ne sont pas d'accord avec nous.
Eh bien, voilà, ça, c'est la cause du maire de Gap qui n'a pas bien négocié avec les champs-souris. Maintenant, on est dans la merde.